Du Trizac, un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
Avec Philippe-Vincent Foisier et Antoine Robitaille, parlons de politics. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour, bon, Benoît.
Bonjour. Alors, on va là où c'est important, on va à Ottawa. Il y a de l'argent et du pouvoir. Juste un mot sur Mme Joly et M. Guilbeault. Mme Joly qui ira négocier bientôt avec les plus redoutables pays à travers le monde.
Oui, ben en fait, c'est plus pour te parler des réactions au lendemain de ces nominations-là. Là, on a vu beaucoup sur Stephen Guilbeault là, qui s'est fait critiquer dans l'Ouest canadien, qui il voit l'une des pires décisions que le gouvernement pouvait prendre, une insulte à l'industrie pétrolière. Et je lisais aussi, et j'écoutais des commentateurs dans le Canada anglais, l'une des plus grandes surprises pour eux, là, à part Stephen Guilbeault, c'est vraiment Mélanie Joly. C'est comme s'il y avait une grande incrédulité de se dire elle vient d'où, elle a fait quoi, comment ça se fait qu'elle mérite ça. Donc vraiment, Mme Joly va avoir du pain sur la planche, pas juste dans l'optique de se trouver une politique internationale, parce que là, on sait même pas exactement c'est quoi que le Canada veut jouer comme rôle dans le monde. Alors, on va devoir travailler là-dessus, mais elle va devoir aussi redorer sa crédibilité au sein de la population canadienne, surtout la population canadienne anglaise. Alors, il va falloir qu'elle fasse vite pour montrer qu'elle maîtrise ses dossiers, et après ça, pour montrer qu'elle sait où elle veut qu'on s'en aille. Parce que, sincèrement, le Canada, dans le monde, c'est quoi? Pas sûr que le gouvernement est capable de le dire. On a comme nos jovialistes en raquette, puis on s'est toujours fléché, puis c'est bien le fun, puis on va être bon, là. Mais tu sais, depuis les casques bleus...
Mais on savait pas plus avec Marc Arnoux en passant.
Non, mais c'est ça, exactement. Non, mais je comprends. C'est juste que si elle veut laisser sa trace, si elle veut laisser sa marque, si elle ne veut pas être quelqu'un d'autre que passer au ministère des Affaires étrangères, parce que ça a l'air que c'est un des postes pas si important que ça, parce qu'on les change, ces ministres-là, presque à chaque année et demie. Mm-hmm. Donc là-dessus, ouais, voilà. Donc beaucoup de travail pour elle aussi, en plus de gérer l'effort probable crises qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Là.
Ouais, et le pape qui viendrait au Canada?
Ouais, ben on a appris ça au moment où il y a plusieurs qui réclament des excuses de la part du Vatican. On n'a pas une date encore précise sur sa visite. La grande question, c'est s'excusera-t-il avant? Viendra-t-il ici présenter ses excuses? Ce que plusieurs souhaitent là, pour les pensionnats autochtones, les sévices qui ont été subis, ça faisait partie des recommandations de la commission Vérité et Réconciliation pour avancer dans cette réconciliation-là.
Et qui va faire la première partie du spectacle?
Non, du pape?
Oui.
je sais pas.
Céline, peut-être?
Ben, ça pourrait être bon, mais là, elle a des spasmes musculaires, ouais, puis non, elle a annulé ses spectacles à Vegas.
Il pourrait peut-être faire un miracle.
On pourrait demander à Mario Pelcha avec son groupe de prêtres, là.
Oui, c'est vrai.
Pour faire la bonne musique.
Oui, parfait. Parlons des bras de fer avec les médecins de famille, M. Robitaille.
Oui, c'est très intéressant. Ça c'est des vraies affaires, c'est pas comme à Ottawa là.
Non, nous on pense.
Ouais, c'est ça. On continue de penser.
C'est ça. À Ottawa, c'est les grandes politiques, Antoine. À Ottawa, c'est les grandes politiques. À Québec, on a les mains dedans.
Ouais. C'est les grandes idées.
Pour ça, vous le direz pas.
Bon, donc, alors. Le bras de fer avec les médecins de famille se poursuit. On sait que le premier ministre et son ministre de la Santé, ici, veulent mettre au pas les médecins de famille. Ils considèrent que les médecins de famille ne prennent pas assez de patients en charge. La prise en charge n'est pas assez grande. Et depuis plusieurs semaines, là, ils menacent d'adopter un projet de loi pour être et qui comprendrait des mesures coercitives. Hein? Et il y aurait peut-être aussi l'utilisation de la fameuse loi 20 de Gaétan Barrette, cette loi qui permettait de couper carrément le salaire des médecins qui refusaient de prendre plus de patients. Il y avait aussi l'idée des quotas de patients qui circulaient à l'époque. Pour l'instant, c'est pas clair ce que le gouvernement veut faire exactement, mais menace toujours de déposer un projet de loi. Réaction de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Elle accuse le gouvernement Legault de causer le chaos, presser le citron à coups de menaces. Écoute, le projet de loi, la loi serait illégale, immorale et discriminatoire. Écoute, c'est
donc ça va pas bien avec les médecins, ça va pas bien avec les infirmières, ça va pas bien avec les paramédics.
Les éducatrices.
C'est éducatrice.
Ça va un peu mieux quand même.
Mais pour le milieu de la santé, là.
Tu veux gouverner au Québec, ça va toujours un peu mal avec ces.
Mais c'est pas demander de l'aide à Ottawa. Il y a deux ministres de la santé.
Oui, eux autres savent comment travailler à Ottawa.
Mais oui. Mais oui, tu gères pas un maudit hôpital, c'est simple.
Mais tu sais comment?
Sauf des hôpitaux pour vétérans, puis pour les autochtones,
les,
c'est vrai.
Les médecins dans l'armée aussi.
Mais t'es donc mieux de pas faire de crise cardiaque ces temps-ci au Québec.
Hey. Mais François Legault, quand même, qui va dire qu'il y a des médecins qui ne font pas un bon travail.
Il y a même une liste noire des méchants médecins du Québec.
C'est pas poussé un petit peu trop, quand même, dans cette négociation-là. Je comprends là, qu'on veut faire plier les médecins, mais à un moment donné...
Philippe Vincent, ça fait combien d'années là, qu'on parle de ça? Qu'il y a comme un consensus autour du fait que les médecins de famille, plusieurs en tout cas d'entre eux, pourraient en prendre plus. Quand tu écoutes les médecins spécialistes parler des médecins de famille, ils disent, écoute, moi, je fais pas juste des quarts de travail de 8 heures, puis, tu sais, je finis pas après. Là. Moi, je continue à travailler alors que les médecins de famille...
En même temps, eux sont devenus médecins spécialistes pour avoir ça. Ils font moins d'argent aussi que les spécialistes, puis ont décidé d'aller en médecine familiale pour ça aussi. C'est un des avantages que les autres...
Ils font moins d'argent, mais ils sont mieux payés que la plupart des gens là, qui voudraient avoir des services, qui voudraient justement avoir accès à un médecin. Alors, tu sais, le gouvernement est pris et cherche des manières... Puis,
mais c'est plus le ton, en fait, que je remets en question ici.
Ouais,
mais
c'est peut-être le
ton. Mais quel ton faut-il employer? Parce que
c'est systémique, comme dirait l'autre. Le problème, c'est que c'est des travailleurs autonomes, des faux travailleurs autonomes qui sont capables de s'incorporer. Est-ce qu'ils ne devraient pas être à salaire, dans le fond, où là, il y aurait un vrai droit de gérance?
C'est une excellente question.
Du Québec.
N'exagère pas, Philippe Vincent. Moi, je trouvais que c'est une question correcte, mais excellente, je trouve que c'est beaucoup charrié.
Non, mais c'est vrai.
T'essaies de lui faire plaisir, là.
Non. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est temps qu'on réfléchisse à... Ben oui, j'aime ça faire plaisir à toi. Ceci dit, je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse à ça aussi. À un moment donné, on va arriver là-dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des médecins qui vont dire, hey, oubliez ça. Moi, c'est pas vrai que je vais prendre plus de patients. Il y en avait un qui disait, je travaille quasiment 6 jours par semaine, mais j'ai juste 8 patients parce que c'est plus compliqué. Les gens du réseau de la santé me disent, attention, là, je peux pas avoir des patients en 15 minutes. Ça se peut pas. Vous voulez m'en donner 1 500? Je vais en prendre 1 500, mais je vais prendre des jeunes adultes qui n'ont pas de problème de santé, que je vais être capable de voir
ça.
Aux deux
moi,
ans,
je suis plus
qui ne prendront pas de rendez-vous.
Non, je suis plus capable d'entendre les médecins parler de même.
Je comprends, sauf que si tu leur donnes
les infirmières
quotas,
nous répondent pas comme ça. Les infirmières font du temps supplémentaire obligatoire. Les infirmières sont toujours au poste et sont payées une fraction du salaire des médecins.
Et c'est vrai. Oui. Et c'est vrai. Sauf qu'après ça, tu peux leur dire, répondez-nous pas comme ça, mais c'est ça qu'ils vont faire.
Pendant des années, ils ont empêché les infirmières d'avoir des
ça, c'est un autre gros problème. Ben oui. Puis les pharmaciens, puis les pharmaciennes.
C'est le syndicat le plus redoutable au Québec, c'est le syndicat de la FMOQ.
C'est du corporatisme pur et dur.
Pur et dur, effectivement. Puis là, ils se plaignent, en tout cas.
C'est moi, ça. C'est juste que des prendre de front tout le temps, ça fonctionne pas. Ça a jamais fonctionné, ça a pas fonctionné avec Gaétan Barrette.
Peut-être les prendre de front pour de vrai, là. Puis dire, là, ça va faire, parce que... sortez votre tête de votre nombril. Puis regardez tous les autres dans le domaine de la santé, dans le milieu de la santé, là, tout le monde court, tout le monde en bave, tout le monde travaille fort. Et une fraction de votre salaire. Fait que là, on va vous ramener sur terre un peu. Puis vous allez arrêter de vous plaindre, puis vous allez proposer des solutions. Sinon, on va vous en imposer.
On va peut-être changer le mode de rémunération. Là.
Peut-être.
Mais pensons à ça, plus que dire on va imposer.
Une capitation.
Mais c'est drôle parce qu'on impose aux infirmières, ça c'est correct. On impose...
Non, mais non, c'est pas correct non plus. Le temps supplémentaire obligatoire, on le dit que c'est pas correct puis ça n'a pas de bon sens.
Bon, mais
moi, je pense qu'il faut qu'on revoie la façon de gérer ce système-là pour pas que ce soit, voici des cases, là, remplissez-les s'il vous plaît.
Ouais.
Puis que ce soit aussi, à un moment donné, qu'il y a des médecins qui font ça par vocation aussi, là, qui font pas juste ça pour le cash.
Philippe Vincent, ça date
du
début de l'assurance maladie. Hein?
Tu sais,
Claude Castonguay, quand il disait qu'il était scandalisé parce qu'ils ont mis ce système-là en place, la première chose qu'ils ont faite, les médecins, c'est faire la grève. Tu sais. il était encore heurté. Il est décédé récemment, Claude Castonguay.
Ouais,
là.
Ouais.
Il était encore, il en tremblait quand il en parlait tellement qu'il était en maudit encore des décennies plus tard.
Ouais. Ouais. Un mot sur ton sujet préféré ces temps-ci, Antoine, la querelle entre la juge en chef et M. Jolin Barrette.
Oui, mais là, ça va prendre de la musique parce que c'est vraiment érotisant.
Oh, attention. Aïe, aïe.
Parce que c'est constitutionnel.
Ah,
un
oui,
peu,
hein?
Beaucoup.
Hein?
Une juge qui dépose un mémoire en commission où elle dit que les législateurs ne devraient pas légiférer. Écoute, moi, j'en reviens pas, là. Mais même les législateurs ont pas l'air à s'en rendre compte, mais c'est leur privilège Le privilège de légiférer ne devrait pas subir aucune entrave et aucune intervention extérieure. Autrement dit, moi, je pense que Simon-Jolin Barrette, là, il pourrait même demander au président de déposer une question de privilège. En chambre, ça veut dire il y a quelqu'un qui m'empêche de faire mon travail comme député, puis le Parlement est souverain. C'est incroyable. Lucie Rondeau, la juge en chef de la Cour du Québec, donc, elle ne veut pas qu'il y ait un tribunal spécialisé qui soit fait par la loi. Elle voudrait faire les choses, elle a déjà commencé à le faire avec son espèce de division au sein de la Cour, sans la loi. Elle veut pas se faire imposer comment on fait les choses. Or, écoute, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution, à l'article 92-14, que c'est le Québec qui organise les tribunaux. Après ça, évidemment, ils ont l'indépendance des tribunaux d'organiser au jour le jour et de donner, par exemple, telle cause à tel juge. Tout ça, c'est évident que le gouvernement se mêle pas de ça. Mais là, t'as vraiment une juge qui empêche un... Et ce qui est fou, c'est qu'on se tourne juste vers le ministre de la Justice, vous dites, hey, arrange ça, obéis. C'est incroyable. En tout cas, voilà. Je n'en reviens pas.
Surtout qu'il y a un quasi-consensus là-dessus.
Pour qu'il y ait un tribunal. Le consensus, c'est qu'il y a un tribunal spécialisé en ces matières-là.
Mais savez-vous ce qui est scandaleux dans tout ça?
Quoi?
C'est que personne ne parle des victimes.
Mais oui, tout le monde parle des victimes.
Non.
Tout le monde dit, avec ma solution, je vais mieux travailler pour les victimes.
Non, parce que là, les victimes sont... Non, ça marche pas présentement, là. Madame Rondeau, elle peut pas arriver en sauveuse qui descend du ciel.
Mais elle dit qu'il y a des modifications qui sont en train d'être faites et qu'il y a du changement qui s'opère en ce moment.
Pourquoi? À cause du projet de loi 92. Parce qu'on leur a frotté les oreilles et on dit qu'on n'accepte plus la façon de laquelle ça marche. Le nombre de juges qui ont dit des conneries pendant un procès et la culture qui a dû évoluer chez les juges même... Elle peut pas arriver puis dire mon Dieu, il n'y en a pas de problème, puis c'est un projet de loi qui est inutile.
Je vais te dire aussi, imagine là une cause devant ce fameux tribunal-là qui vient d'être créé, OK? Gilbert Rozon se présente, mettons qu'il est accusé, c'est déjà arrivé, là, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. La première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit? Ben, votre juge, là, elle a dit que ce tribunal-là est anticonstitutionnel. Donc, elle est en train de saper toute possibilité d'avoir un tribunal spécial, puis justement de régler ce problème-là, que les élus ont le droit d'identifier, puis ont le droit de... ils ont le devoir de proposer des solutions. Là, ils proposent une solution, mais la juge est mine par ses commentaires publics, même sa propre impartialité. C'est ça, moi, que j'en reviens pas. C'est pour ça que les juges ne font pas de politique. Et là, elle va très loin, au lieu de juste défendre son indépendance, derrière des portes closes, en coulisses, c'est pas en public. Là, elle l'a fait en public. Moi, je trouve que c'est inacceptable.
Est-ce qu'elle aurait dû être invitée à la commission parlementaire? Ben, je pense que c'est
une
critique.
Elle n'a pas d'affaires en commission. Écoute, il y a un renvoi qui a été fait sur la rémunération des juges en 1998, puis on a défini un peu le rapport entre les pouvoirs. Et là-dedans, on dit il doit pas y avoir de contact direct entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs. Pour négocier un salaire, évidemment, parce qu'il pourrait y avoir marchandage, pression indue. Ça a été défini dans ce temps-là. Donc, elle aurait pu faire part de son opposition, mais en bout de ligne, se plier au pouvoir qui a le droit de trancher dans l'organisation des tribunaux, c'est le législatif. Alors, tout le monde est d'accord, en plus. Véronique Yvon, Isabelle Melançon, puis Simon-Jolin Barrette et puis Christine Labrie, ils s'entendent. En tout cas, moi...
Maintenant, je pose une question. Une question rapide là, sur un processus. Là. Il y a un tribunal. Gilbert Rozon est là, conteste ce tribunal-là. Il se retourne vers quoi? Vers la Cour du Québec pour dire ce tribunal-là ne peut pas gérer ma cause et ça va être entendu par Mme Rondeau?
Ça va être... moi, je pense qu'il va falloir que le juge se récuse. Et peut-être
qu'on envoie ça au fédéral,
tout de suite en cour supérieure.
En cour d'appel,
Après ça, cour d'appel, après ça, cour suprême. Là, on va niaiser combien d'années comme ça? Alors qu'on a besoin de solutions pour les victimes tout de suite. Puis il y en a une, il y a un projet de loi qui est déposé. Mais madame, elle veut pas qu'il veut pas que les législateurs légifèrent. C'est incroyable, en tout cas.
OK, on se laisse là-dessus. M. Robitaille, M. Foisy, merci.
Messieurs,
au revoir. À demain.